15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo, Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à l'hygiène bucco-dentaire des plus jeunes. Comment bien se brosser les dents, quelle est la bonne technique et aussi en cas de choc dentaire ou même si l'on se casse une dent, comment réagir. On fera le point avec notre invité, le docteur Noémie Schlussenberg. Elle est chirurgien dentiste dans les Hauts-de-Seine. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des compléments alimentaires contre la fatigue, le rhume pour mieux dormir. Que valent-ils réellement et en a-t-on réellement besoin pour être en bonne santé? Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler des animaux aujourd'hui et surtout des éventuels bienfaits qu'ils peuvent nous apporter à nous les hommes sur le plan médical. Vous verrez, c'est étonnant, mais les chiens, par exemple, sont un atout pour notre santé cardiovasculaire. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question des problèmes de libido que rencontrent certains couples après la naissance d'un enfant. Mais tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, on écoute la première question, c'est celle de Sophie, 29 ans.
Bonjour Mélanie, je vous appelle parce que mon petit garçon a 5 ans, il a du retard pour formuler des phrases, il zozote, il bégaye. Bon, ça m'inquiète un petit peu, je ne vous le cache pas. Je voulais savoir si je devais consulter un orthophoniste. Merci.
Alors, un enfant qui zozote, c'est ce qu'elle a dit Sophie. Est-ce que c'est fréquent, Jimmy? Et au final, est-ce que c'est si grave que ça?
Oui, c'est plutôt fréquent. Il faut différencier le zozotement du bégaiement. Parce qu'elle nous a dit, il zozote, il bégaye. Ouais. La prise en charge n'est pas tout à fait la même. Le zozotement est plutôt très fréquent chez l'enfant. Et c'est lié à une mauvaise position de la langue lorsqu'il parle. Lorsqu'il doit prononcer certaines lettres, notamment les sons S et Z, il doit avancer sa langue au niveau des incisives. Et résultat, en fait, il ne prononce qu'un seul son, le son Z.
Exactement. C'est le cheveu sur la langue.
Exactement. Et du coup, les ch et les s sont plutôt difficiles à dire.
Ça va, vous les dites bien, j'ai remarqué.
Exactement. On a les ch et les j, pardon, sont plutôt difficiles à prononcer.
Un j, vous n'êtes pas au top, j'ai remarqué.
Et il les remplace finalement par les s et les z en projetant sa langue en avant. Et finalement, c'est en grandissant, lorsque la position de la langue va évoluer en même temps que les dents vont pousser, que ce petit problème va rentrer dans l'ordre.
Et c'est pas souvent aussi les enfants qui sucent leur pouce comme ça ou qui ont beaucoup la tétine longtemps qui ont ce genre de problème?
Alors c'est pas systématique non plus. On sait qu'en revanche, le fait de sucer son pouce longtemps ou d'avoir une tétine peut entraîner des déformations du palais et ces déformations peuvent entraîner un zozotement qui peut être un peu plus marqué. Dans ces cas-là, la prise en charge est plutôt orthodontiste.
Alors Sophie, elle dit que son fils il a 5 ans. Est-ce qu'à 5 ans, elle doit s'inquiéter et consulter un orthophoniste? Parce que vous dites parfois qu'il y en a qui disparaissent de zozotement aussi.
Exactement. Alors déjà, il faut éviter lorsqu'un enfant zozote, les faire répéter. S'il zozote, et que vous lui dites non mais c'est pas comme ça qu'on dit, on dit comme ça, on va au contraire le frustrer encore plus et le zozotement va être encore plus prononcé. Donc on ne s'excite pas sur lui. 5 ans c'est l'âge idéal pour la prise en charge orthophonique. Avant, ils sont finalement pas assez attentifs et c'est compliqué de les maintenir. En revanche, 5 ans, c'est juste avant l'entrée au CP.
Eh oui.
D'autant plus que les rendez-vous chez l'orthophoniste sont très longs à voir et ça commence souvent par un bilan. Donc 5 ans, globalement, c'est l'âge à partir duquel on peut commencer des séances.
Parfait. Donc en général, en quelques séances, une dizaine, une vingtaine, ça dépend évidemment de l'enfant. On arrive effectivement avec de la rééducation à régler ces problèmes-là en général et c'est pris en charge par l'assurance maladie et le reste éventuellement par une mutuelle. Merci beaucoup Jimmy. Alors on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Jean, 35 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Je souffre actuellement du dos et je suis allé consulter mon docteur qui me conseille vivement de continuer à avoir une activité physique. Je voulais simplement avoir votre avis là-dessus. Merci.
Alors ça aussi c'est une bonne question, c'est vrai qu'en ce qui concerne le mal de dos, les choses ont changé ces dernières années. Alors avant, c'est vrai qu'on conseillait aux gens de rester immobiles pendant plusieurs jours. Là, au contraire, vous conseillez, vous Jimmy, aux patients que vous croisez en consultation, de rester actifs.
Oui, l'inactivité au contraire aggrave les douleurs que ce soit à la phase aiguë ou à la phase chronique. Évidemment que si jamais vous travaillez dans le bâtiment, que vous avez un métier plutôt physique, on vous conseille de vous arrêter. Mmh. En revanche, pour une activité plutôt légère à modérée, les études prouvent que la récupération est meilleure et c'est d'ailleurs pour ça que l'assurance maladie a lancé une campagne. Mal de dos, le bon traitement, c'est le mouvement. C'est pas simplement pour faire des économies, c'est vraiment dans l'intérêt du malade. Bouger est bon pour votre dos lorsque vous avez mal au dos.
Et donc vous, le conseil aujourd'hui, c'est donc, imaginons, je suis totalement bloqué du dos, vous me dites, vas-y, c'est pas grave, va faire un footing.
Quand même pas. Faut trouver. On parle d'activité légère à modérée. C'est garder une activité de marche. C'est déjà se déplacer à la maison. On évite de passer sa journée au lit ou sur le canapé parce que les muscles du dos vont s'affaisser, les ligaments vont rester finalement froids et lorsque vous allez vouloir vous remettre en marche, ça va être encore plus pénible. C'est d'aller faire quelques petites courses sans porter des packs d'eau. C'est d'éviter de monter 5 étages sans ascenseur, d'éviter effectivement de porter les enfants. Mais une activité de marche sur terrain plat, c'est parfait pour une bonne récupération.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Jean qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite avec le docteur Jimmy Mohamed.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des compléments alimentaires et de leurs éventuels dangers. Et puis, on accueillera aussi notre invitée du jour, le docteur Noémie Schlüsselberg. Elle est chirurgien-dentiste et avec elle, on va parler des bons gestes pour garder et avoir de belles dents tout au long de sa vie. Une bonne méthode de brossage, par exemple, ça commence dès 3-4 ans. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre nouvelle émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, la dentiste Noémie Schlüsselberg. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez des compléments alimentaires. C'est suite à la parution hier dans le magazine 60 millions de consommateurs d'une enquête qu'ils ont réalisée donc sur plus de 120 produits contre la fatigue, le rhume et même les troubles du sommeil. Et ce qui ressort, c'est que déjà en termes d'efficacité, c'est pas génial, hein, c'est ça?
Oui, très peu, voire quasiment aucun produit qui est mis sur le marché n'a bénéficié d'études scientifiques valables. Et souvent, on parle de vitamine C pour lutter contre certaines infections, lutter, avoir une meilleure immunité. Et même ça, finalement, c'est plutôt faux, ça ne servirait à pas grand-chose. Et si on prend d'autres compléments qu'on connaît bien, comme la spiruline, et ben ceux-ci peuvent être chargés en métaux lourds et donc finalement avoir des conséquences. Et qu'on prend finalement pour le tonus, finalement se sentir un peu mieux, et ben ça pourrait avoir des conséquences négatives sur notre santé.
Donc c'est pas très efficace, mais donc au pire, ça peut même faire mal, hein, c'est ça que vous voulez nous dire, hein.
Exactement. Alors certains peuvent aider un petit peu, donc pourquoi pas, mais au contraire, d'autres peuvent être toxiques. C'est le cas notamment d'un colorant qu'on peut retrouver, qu'on appelle l'allura dans certains compléments alimentaires et qui serait responsable d'hyperactivité, notamment chez les enfants.
Ah oui.
On trouve aussi un E171, donc c'est conservateur dont on parle, le dioxyde de titane. Et lui, il aurait une action pro-inflammatoire et pourrait être néfaste sur le système immunitaire.
Oui,
bref,
quand même.
Au-delà de l'inefficacité de certains traitements, certains peuvent être dangereux. Et celui dont j'ai parlé sera interdit dans l'alimentation à partir de janvier 2020. Bref, il faut être prudent.
Alors, faut-il les voir comme un médicament avec un risque de surdosage ou c'est un peu open bar, on prend comme on veut?
Oui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on prend quelque chose, qu'on prend des plantes,
c'est naturel,
ouais. C'est sympa. Or, ça peut avoir des effets secondaires. Certaines sont strictement contre-indiquées chez l'enfant ou la femme enceinte. Et lorsqu'ils sont pris en trop grande quantité, il peut y avoir des effets secondaires avec des nausées, des palpitations, des troubles du rythme.
Oui, comme quoi les plantes.
Donc, c'est un médicament. Hein. Bref, ne prenez pas ça au hasard et à la légère. Demandez conseil à votre pharmacien, c'est la base du traitement.
Et là, si je suis un peu malade, quand même, on a envie de pouvoir prendre quelque chose là pour éviter les rhumes, tous les virus qui circulent. On prend quoi?
Alors, s'il y a une chose qu'il faut prendre en début d'hiver, c'est la vitamine D. C'est la seule vitamine qu'on ne retrouve pas dans l'alimentation. Tous les autres, on peut les retrouver lorsqu'on a une alimentation à peu près équilibrée. Ce qui peut vous aider en cette période aussi, c'est faire une petite cure de magnésium durant 15 jours, 3 semaines.
Anti-fatigue.
Exactement, donc, ça peut vous aider. Donc, magnésium et vitamine D, ça suffit largement.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils. Et donc, tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le docteur Noémie Schlüsselberg. Elle est pédodontiste, c'est-à-dire spécialiste des enfants, finalement, des dents des enfants dans les Hauts-de-Seine.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Bonjour docteur Schlüsselberg.
Bonjour Mélanie.
Alors d'abord, si on va parler donc d'hygiène aujourd'hui des dents et notamment des dents des petits, est-ce qu'en France on sait si elle est plutôt bonne cette hygiène bucco-dentaire ou est-ce qu'on est dans la moyenne ou pas? Comment ça se passe les enfants?
Alors elle est plutôt bonne avec des grosses inégalités en fonction des milieux socio-économiques et des différences entre la ruralité et la ville.
D'accord. Et est-ce que par exemple, si on parle du gros problème dentaire qu'on connaît tous, les caries, est-ce qu'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, ceux que vous voyez dans vos cabinets ou ceux de vos confrères, est-ce qu'il y a toujours autant de caries ou pas chez les petits?
Alors, il y a toujours autant de caries. La différence, ça a quand même bien évolué par rapport à avant. Il y a eu des bonnes campagnes de prévention qui ont fonctionné. Donc, il y a de moins en moins d'enfants qui ont des caries. Mais ceux qui ont des caries en ont énormément. Donc il y a des grosses inégalités entre les gens. Entre les
Jimmy
enfants.
On a l'impression que les caries, c'est un problème du grand enfant, mais à partir de quel âge on peut avoir sa première carie?
Alors on peut avoir des caries dès qu'il y a une dent en bouche. En fait,
l'arrivée
de la carie, dès qu'il y a une dent. La carie arrive quand on a une colonisation de la cavité buccale par la bactérie Streptococcus mutans. et un déséquilibre alimentaire, donc un apport trop de sucre.
Mmh. Et vous, la carie la plus jeune, entre guillemets, chez l'enfant le plus jeune, que vous avez
ça devait être un an.
Ah ouais, ouais. Vous avez soigné une carie chez un bébé d'un an.
Oui, ouais, plusieurs même. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, c'est une bactérie qui colonise la flore bactérienne, qui colonise la flore buccale, et c'est une bactérie qu'on retrouve chez les parents. Donc en fait, il faut éviter un conseil assez simple à donner aux parents de jeunes enfants. Ne pas lécher la tétine et la remettre dans la bouche de l'enfant.
Ah oui,
geste qu'on fait tous en plus.
Oui,
hein.
Moi voilà. Je l'ai fait mille fois.
Parce qu'on pense les protéger. La tétine tombe, on la ramasse, on la met à la bouche.
Bah non, c'est pire en fait. Au mieux, on la passe sous l'eau ou on ne met pas la tétine.
Ah oui, je comprends. Ne pas
goûter. Par exemple, quand on goûte la purée, chacun sa cuillère. On ne prend pas notre cuillère et on donne à l'enfant. Parce que du coup, on colonise.
C'est n'importe quoi,
Jimmy. C'est pas bien.
C'est comme ça qu'on leur file des caries, quoi, aussi.
C'est comme ça qu'on leur donne la bactérie. Alors, ça dépend si le parent a des caries ou pas. Si le parent n'a pas de caries, globalement, ça se passe bien. Mais si le parent a des caries, on colonise la bouche de l'enfant. Et dès qu'il y a un peu pas de brossage ou trop de sucre ou trop de grignotage, ça y est, on peut avoir des cas.
Bon, on arrête de sucer la tétine du bébé, de lécher la cuillère de la purée. Merci beaucoup. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on passe donc à la pratique. Quelle est la bonne méthode de brossage des dents? Vous allez voir, c'est pas tout à fait la même chez les tout petits enfants et les plus grands. On vous dira tout. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre nouvelle émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Noémie Schlossenberg, chirurgien-dentiste dans les Hauts-de-Seine. Alors, elle est spécialiste des enfants plus particulièrement. Docteur, le brossage des dents, on a l'impression que c'est un geste un petit peu assez simple. Finalement, c'est un truc qu'on fait tous les jours. Mais en fait, il y a quand même une vraie méthode à connaître. Par exemple, à 2-3 ans, enfin, je ne sais pas à quel âge on commence à brosser les dents des enfants, mais ils doivent s'y prendre comment, les tout petits? C'est nous qui leur brossons?
Alors déjà, il est recommandé de brosser les dents dès l'apparition des premières dents. Donc les toutes premières dents, ça va être avec une compresse sur un dos, autour du doigt. Et après, une brosse à dents, on brosse un petit peu comme on peut. Hein. Chez un petit, le temps avec une bouche ouverte, c'est pas très simple.
Non.
Donc on brosse le temps d'une chanson, le temps de raconter une petite comptine. Et puis après, le brossage jusqu'à 3 ans est effectué par les parents. À partir de 3 ans, en fonction de l'enfant, et l'enfant peut le faire un petit peu tout seul et les parents repassent de toute façon toujours derrière. Un brossage chez les petits doit être au minimum de 2 minutes. Donc 2 minutes, c'est long,
ah ouais,
surtout quand on a un petit
ans, ouais.
qui bouge partout, qui a autre chose à faire que de se brosser les dents. Et à partir de 6 ans, on peut estimer que l'enfant vraiment est capable de se brosser les dents. Maintenant, moi, je conseille toujours aux parents de rester derrière l'enfant, d'être sûr qu'il brosse partout, de bien compter. Alors, 6 ans, 3 minutes. De bien brosser les dents permanentes qui sont en train d'arriver au fond, de brosser toutes les dents, chaque dent, plusieurs fois.
Jimmy ?
Et comment on fait quand on a un enfant qui a un peu une tête de mule, qui refuse par exemple de mettre, je sais pas, un pantalon ? Non, parce que je suis un peu psychopathe maintenant avec ça. Mais du coup, il y a des parents qui me disent, voilà, mon enfant, c'est une terreur, c'est impossible de lui mettre un pantalon, un manteau. Comment l'obliger à se brosser les dents quand il a 3-4 ans ?
Alors moi, je suis une spécialiste du choix illusoire depuis que j'ai lu un bouquin magnifique, mais je ne sais pas si on peut en parler maintenant. Ça s'appelle « J'ai tout essayé ». Alors, je ne me souviens plus là du
On cherchera,
Filiosa, voilà, c'est Isabelle Filiosa. Tout n'est que choix illusoire. Tu veux mettre ton pantalon ou alors, on va dire les chaussures, tu veux mettre ton manteau d'abord ou tes chaussures d'abord? On s'en fiche, de toute façon, il va mettre les deux. L'essentiel, c'est qu'il choisit. Les dents, c'est tu veux que ce soit maman qui commence ou que ce soit toi qui commence. C'est avec papa, c'est avec maman, avec ta brosse à dents, avec ma brosse à dents.
Tu préfères papa ou maman? Et au final, il brosse les dents quand même.
Ah oui, c'est
des fois, on a un enfant qui dit aucun.
Moi,
j'ai une fille qui disait des fois rien. Aucun. J'ai dit, voilà, on passe au choix illusoire d'après. Là, on a l'air un peu bête, mais au bout d'un moment, il cède.
C'est
pas mal. Vous êtes une grosse arnaqueuse, en fait.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Mais au moins, il se brosse les dents.
C'est ça.
Alors, comment on fait, du coup, ces dents permanentes? Vous disiez, à partir de 6 ans, là, on change. Donc on passe quand même à une vraie méthode de brossage. En gros, vers le CP, ils passent à la méthode du rouleau, c'est ça? C'est quoi la méthode exactement pour se brosser les dents correctement?
Alors moi, je leur explique que ça ressemble au rouleau qui nettoie les voitures. Donc on va toujours du rouge vers le blanc. Donc comme ils savent qu'en bas,
gencive,
c'est du bas vers le haut. Et en haut, c'est du haut vers le bas. Alors ils peuvent faire aussi des petits ronds, parce que quelquefois, c'est quand même pas évident non plus. Mais dès le CP ou dès l'apprentissage vraiment, ou l'acquisition de l'écriture aisée, on va dire, là, ils sont capables de se brosser les dents avec la technique du rouleau.
Jimmy ?
Et finalement, les parents aussi parfois sont perturbés sur le choix de la brosse à dents. Comment on fait ?
Le plus simple possible.
On
plus simple
au supermarché, n'importe où.
Oui, le plus simple. Faut pas acheter une brosse à dents avec des poils dans tous les sens, avec les poils qui brossent mieux que les autres, ça n'a aucun intérêt. Tout simple, petit. Alors pour les petits, il faut une petite brosse et pour les enfants un peu plus grands, une plus grande brosse.
Adaptée à l'âge.
Ouais. Voilà, adaptée à l'âge.
On parle de la brosse à dents électrique chez les adultes en disant que ça marche nettement mieux. Ouais. Et chez les enfants, est-ce que c'est finalement.
Moi, je suis une fan de la brosse à dents électrique parce que. Alors après, c'est pas la brosse à dents qui brosse toute seule. Il faut quand même qu'il y ait derrière le parent qui surveille, il faut qu'il y ait l'enfant qui est quand même là. Qui sache que c'est quand même important de brosser ses dents, mais c'est beaucoup plus efficace.
Et même chez les petits. Chez les petits, à partir de quel âge on peut proposer une brosse à dents électrique ?
Pas si petit que ça quand même, parce que ça vibre, ça chatouille, ça gratte. En général, avant 4-5 ans, ça n'a aucun intérêt de prendre une brosse à dents électrique. Grande section de maternelle, oui, c'est bien une petite brosse à dents électrique. Après, il y en a qui s'en sortent très bien avec une brosse à dents manuelle, hein, c'est pas obligatoire. Mais à partir du CPCE1, les enfants, ils ont tellement de trucs à faire. Ils ont les devoirs, la musique, le poney, le machin, la brosse à dents électrique, ça facilite la vie, quoi.
Très bien. Et alors, à partir de quel âge on met du dentifrice ? Parce que moi, j'ai une petite fille de 2 ans, elle commence un peu à s'amuser avec la brosse à dents. Bon, c'est pas un brossage très efficace, je pense, mais elle a très envie que je lui mette du dentifrice. Moi, j'ai peur qu'elle l'avale, surtout, donc je sais pas.
Alors, pour parler du dentifrice, en fait, il faut aussi parler de la supplémentation en fluor. Donc, c'est un gros, gros sujet. Les recommandations, c'est de mettre un dentifrice qui est faiblement fluoré avant l'âge de 6 ans. On peut même en mettre chez les petits. Même à l'âge de 2 ans, on peut, mais en trace, en fait. On exprime justement uniquement sur la brosse à dents. À partir du moment où il n'y a pas d'autres apports fluorés, c'est-à-dire pas d'autres boissons, pas de sel fluoré, pas de supplémentation fluorée, mais normalement, maintenant, les médecins, à partir de 6 mois, il me semble qu'il n'y a plus de supplémentation fluorée. Donc, on estime qu'ils avalent, on sait qu'ils avalent, c'est pour ça qu'il y a peu de fluor avant 6 ans.
Donc, dès 2 ans, on peut mettre un petit peu de dentifrice, mais un tout petit peu, une trace seulement de dentifrice. Alors, on n'en a pas terminé avec vous, docteur Schusselberg. On poursuit cette discussion dans quelques minutes. Vous restez là.
Europe 1.
Dans un instant, on va continuer sur l'hygiène dentaire des plus jeunes. On parlera fluor, on va en continuer, puisqu'avant, on donnait des petits comprimés. Je ne sais pas pourquoi ils ont disparu. De l'âge aussi auquel il faut avoir cette première visite chez le dentiste. Et puis, on vous dira ce qu'il faut faire quand on se casse une dent. Vous verrez qu'il faut la ramener au dentiste, mais surtout, pas la nettoyer avant. On vous dira pourquoi. Restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Noémie Schlusselberg. Elle est chirurgien dentiste dans les Hauts-de-Seine. Alors, elle est spécialiste des enfants plus particulièrement. Docteur, il y a quelques minutes, vous avez donné les bonnes méthodes de brossage des dents, des plus jeunes et des plus grands. Hein. On a parlé dentifrice aussi, mais qu'en est-il du fluor ? Vous avez un petit peu amorcé ce sujet tout à l'heure, mais moi, quand j'étais enfant, ma maman, elle me donnait des petits cachets tout blancs, là, des petits compléments de fluor. Pourquoi on le fait plus, ça ?
Alors, on le fait plus parce que, à l'échelle de la population, ça, c'était plus nocif que bénéfique. On s'est rendu compte que le fluor, on le sait, hein, le fluor, il stoppe la carie, il renforce les dents, il empêche les bactéries qui sont responsables de la carie de proliférer. Donc, on en a besoin en prévention de la carie. Sauf qu'à l'échelle de la population, on a plus de risques d'avoir un surdosage que d'avoir du fluor un petit peu tout le temps, tous les jours, qui va nous renforcer un petit peu les dents. Et donc, du coup, on arrête cette supplémentation. Sauf dans certains cas quand même, quand on a des enfants qui sont en très, très haut risque carieux, on en prescrit.
D'accord. Et le risque d'avoir trop de fluor, c'est quoi ? C'est des taches sur les dents, hein, je crois.
Alors, ce n'est pas que des taches, donc il y a un côté inesthétique, mais c'est surtout que les dents sont extrêmement poreuses et donc du coup sont très, très sensibles à la carie.
Jimmy ?
Tout à l'heure, on a parlé de la brosse à dents des enfants, mais nous, les adultes, on fait comment pour en choisir une brosse à dents ? Il faut plutôt un truc à poils durs ou à poils souples ?
Toujours des poils souples. Les poils souples, c'est comme un poil dur, c'est comme si on se brossait avec un bâton. Le bâton, il n'est pas souple, donc il ne passe pas entre les dents. Les poils souples, c'est fait pour justement s'appuyer quand on fait notre technique du rouleau et passer entre les dents.
Donc ils les vendent, pourtant les durs, médiums, souples.
C'est du marketing, hein. Comme toutes les poils de brosse à dents avec la brosse à dents plus souple, la brosse à dents avec des poils en synthétique. Il faut une brosse à dents toute simple.
Ouais, vous avez votre réponse.
Bah oui, parce qu'en plus, on a l'impression que si c'est dur, forcément, ce sera plus efficace et qu'on pourra détartrer, mais
ouais,
pas vraiment.
Pas du tout.
Qu'est-ce que vous pensez du fil dentaire ? Alors, je sais que chez les adultes, c'est plutôt recommandé, mais est-ce qu'on peut l'utiliser, par exemple, chez les enfants aussi ?
Bien sûr.
Vous l'adorez, hein, le fil dentaire ?
Ouais, moi, j'aime bien. moi, j'aime bien le fil dentaire parce que ça évite d'avoir des caries entre les dents et que la majorité des caries, surtout chez les enfants, sont entre les dents. Donc, quand j'ai des parents qui sont un peu réceptifs et que eux-mêmes ils passent le fil dentaire, ça évite un gros paquet de caries.
Jimmy ?
Et à partir de quel âge on peut commencer le fil dentaire ?
Dès qu'ils sont tout petits, dès que les dents sont un petit peu serrées, des 4-5 ans.
Et tous les jours, le soir, après le brossage des dents ?
Le soir, voilà.
Ça ne remplace pas le brossage de dents, évidemment.
Ça ne remplace pas le brossage, c'est après le brossage et ça prend 5 secondes. Hein. C'est très rapide.
Mais il faut que ce soit le parent qui le fasse au départ.
Ah oui, ça,
quand
bien,
même.
Sûr. Mmh, bien, oui, sûr. Ça bien sûr.
On laisse pas le fil dentaire dans la main des petits. Qu'est-ce que vous pensez des bains de bouche qui soi-disant désinfectent pour une bonne hygiène? On fait ça tout le temps ou c'est juste quand on est un peu malade des dents, justement?
Non, parce que justement, c'est vu que ça désinfecte et que la bouche, c'est que des bactéries et c'est un équilibre de bactéries, si on met quelque chose qui désinfecte dans quelque chose qui est équilibré, ça fonctionne pas. Et donc, du coup, non, il faut pas le faire, sauf par exemple après une extraction dentaire.
Mais le dentiste vous le dit, là, vous pouvez en utiliser.
Exactement.
Ça
mais sinon, ça n'a aucun intérêt.
Chez les enfants non plus, hein, c'est ça.
Ah non, aucun intérêt.
Moins.
Aucun intérêt.
À partir de quel âge on peut amener un enfant chez le dentiste et est-ce qu'on doit l'amener même s'il n'a pas de carie?
Oui, c'est même conseillé parce que du coup, la consultation se passe bien. On joue, on rigole, on montre plein de choses, on est détendu, on parle de la tétine, on parle du pouce, on parle de dégrignotage, on parle de plein de choses. Et à partir de quel âge? Bah, c'est la petite section, c'est 3 ans d'ailleurs. Il y a un nouveau bilan obligatoire maintenant. Enfin, obligatoire.
C'est le programme MT Dents. Hein,
le programme MT Dents, voilà. Donc il y a 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans et 18 ans. Et après, il y a femmes enceintes et puis personnes âgées.
Alors, on s'est rencontrés au mois de juin parce qu'il y avait eu une alerte justement des dentistes et des orthodontistes sur les accidents de trottinettes notamment qui avaient explosé et notamment le risque pour les dents des enfants. Vous en avez vu, vous, des patients avec des chocs dentaires à cause de ce type d'accident?
Oui, tout à fait. Oui. C'est avec la trottinette, ça fait partie des chocs les plus violents que j'ai vus récemment.
Et ça donne quoi dans la bouche?
Ça donne soit des dents complètement expulsées. Alors là, on parle sur, je suis sur les dents permanentes. On parle pas des dents temporaires. Dents expulsées, dents, je veux dire explosées, fracturées en 1000 morceaux. C'était assez impressionnant.
Oui. Jimmy.
Et comment on fait concrètement si justement un enfant a un accident de trottinette, sa dent tombe? Elle est cassée, on doit vite aller chez le dentiste ou on se dit bon bah c'est pas très grave, ça va repousser de toute façon.
Alors dents temporaires, oui, dents temporaires va repousser, ça c'est moins urgent que la dent permanente. Alors dents permanentes, de toute façon c'est une urgence, à moins qu'il y ait eu des problèmes généraux, c'est-à-dire perte de conscience, vomissement.
Les urgences d'abord.
Oui,
voilà,
urgences,
c'est d'abord les urgences, on voit les dents après. Par contre, le réflexe c'est de récupérer soit la dent qui est sortie en entier avec sa racine. On ne la nettoie pas, on la met dans de l'eau,
pourquoi
dans du lait.
Pourquoi on ne la nettoie pas?
Parce que la dent autour de sa racine a plein de cellules, plein de choses dont elle va avoir besoin quand on va la réimplanter pour se
réguérir. Vous avez besoin de cette chair,
guérir.
Là, un peu sanguinolente, voilà. Autour, là, mais il faut la laisser surtout. Hein, c'est
alors
ça.
En fonction de dans quoi on est tombé, on la passera dans une solution d'antibiotiques, on va la laver avec du sérum physiologique.
Ça, c'est vous qui le ferez. Hein.
Voilà, mais il ne faut pas la gratter.
Il y a des parents qui arrivent avec la dent bien lavée, c'est ça?
Malheureusement, oui, j'en ai un qui est arrivé avec la dent très 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 bien lavée. Ils étaient contents à l'école, ils avaient tout bien lavé, mais par contre, ça a été une catastrophe, quoi. Alors, on a remis la dent, mais par contre, elle est en mauvais état.
Et on la conserve dans quoi?
Conserve soit dans du lait si on en a, de l'eau, dans un verre de lait, de l'eau, du sérum phi. Et si vraiment on n'a rien, on fait cracher l'enfant de sa salive dans un
bout de la bave.
C'est son milieu naturel.
Il faut juste qu'elle ne soit pas sèche, en fait. C'est
voilà,
ça. Dans
exactement.
Un mouchoir, c'est pas une bonne idée.
Dans un mouchoir, c'est une très mauvaise idée.
Pourquoi?
Parce qu'après, déjà, la dent, elle est censée être dans quelque chose d'humide. Donc, du coup, elle va pas tenir. Les cellules vont mourir et du coup, on va avoir un plus mauvais pronostic.
Si on n'appelle pas tout de suite, justement, si mon enfant, il a perdu une dent, l'école m'appelle, me dit, votre fils a été blessé au niveau des dents, on a récupéré la dent. Je me dis, bon, on est jeudi, on va peut-être attendre, je sais pas, samedi, j'aurai le temps. C'est quoi le risque si on s'y prend trop tard pour remettre une dent qui est tombée?
Si on parle de toute façon d'une dent complètement expulsée avec sa racine, l'école, elle va vous mettre la pression pour que vous y alliez tout de suite. Donc, de toute façon, ça n'arrivera pas. Si par exemple, c'est un morceau qui est cassé, le risque, il est soit où il va rien se passer, parce que finalement, la dent va bien et qu'il va rien se passer, soit on aura un moins bon pronostic et la dent va finir par se nécroser.
Devenir un peu noire, c'est ça?
Elle va devenir noire parce qu'en fait, les cellules qui sont à l'intérieur, qui sont vivantes, elles meurent. Et donc là, si on ne fait rien, on va finir par avoir un abcès au bout de la dent. L'abcès va détruire l'os et là, ça va commencer à devenir un peu plus compliqué.
Donc, c'est quand même une urgence. Mais on se dit quand même, vous nous dites que c'est une urgence, il faut essayer de nous appeler vite, nous les dentistes. Mais on pourra l'avoir vécu. Les dentistes, ce n'est pas toujours facile à avoir, un rendez-vous. Vous nous prenez en urgence vraiment comme ça quand il y a une... vous, par exemple, vous gardez des créneaux pour ce genre de choses?
Même si on n'a pas de créneaux, c'est une urgence. Donc, c'est une urgence. On appelle les patients qui ne sont pas urgents. On leur dit, on est désolé, on décale. C'est une urgence.
Et est-ce qu'il y a des sports qu'il faut éviter de faire aux enfants pour justement prévenir ces accidents?
Alors éviter, c'est compliqué de dire à un enfant qu'il ne peut pas faire un sport, mais en tout cas, il faut prévenir, faut faire de la prévention. Donc les protège-dents, les casques. Alors les sports violents, ils le font déjà. Hein. Le hockey, ils le font déjà.
Rugby aussi.
Le rugby, ils le font déjà. Le foot, ce serait peut-être bien qu'ils mettent des protège-dents aussi, parce que les gamins, ils se prennent des coups de genoux.
Des gamins qui jouent au foot qui ont des problèmes?
J'en ai eu. Ouais. Alors rugby, hockey, jamais, parce qu'ils sont tellement protégés qu'ils n'ont jamais rien. Non, les plus forts, c'est la trottinette et le vélo. Hein. Mais les autres sports, faut faire des protège-dents. C'est pareil, les sports de combat, ils ont des protège-dents aussi. Donc moi je suis pas du genre à empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent, mais
si c'est
faut
violent,
faire attention.
On
quoi.
Met un protège-dent. Voilà. Très rapidement, vous dites qu'aussi le traitement orthodontique, parfois, ça peut aider à éviter des accidents dentaires.
Oui, tout à fait, parce que le traitement orthodontique va nous reculer les dents qui éventuellement sont trop en avant et qui du coup sont exposées au cas où l'enfant fait une chute.
Merci beaucoup docteur Schusselberg d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on en sait plus sur ce qu'il faut faire avec l'hygiène bucco-dentaire des enfants et ce qu'il faut faire aussi s'il y a un problème, s'il y a une dent cassée. Merci beaucoup, merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé aux bienfaits sur notre santé des animaux, avec des bienfaits que vous ne soupçonnez peut-être même pas. Avoir un chien, par exemple, ça protège notre cœur. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on parle des animaux et des bienfaits qu'ils peuvent nous procurer sur notre santé. Justement, Benjamin Lévesque a été vous donner la parole sur ce sujet. Savez-vous qu'avoir un chien, c'est bon pour le cœur, par exemple? On écoute son micro-trottoir.
Un chien, un boxer.
Des chats, j'ai eu un chien, j'ai eu des poissons, j'ai essayé de domestiquer des lézards.
J'ai des enfants, un mari, c'est bien déjà.
Ma petite fille qui a peur des chiens, donc je me dis que peut-être que cela stresserait, alors du coup je ne prends pas d'animaux de compagnie.
Un animal de compagnie peut être bon pour une santé mentale, après pour la santé physique, non.
Ça rassure, ça réconforte, de temps en temps on peut lui parler aussi. Ça rend plus joyeux en fait.
Créer une relation avec un être autre qu'humain déjà.
C'est les personnes seules qui peuvent être en dépression ou des choses comme ça. D'avoir un animal de compagnie, je pense que oui, ça peut pas être néfaste.
Beaucoup de personnes que je connais qui ont notamment des chats disent que pour le côté stressant, c'est très déstressant de pouvoir juste par le phénomène de la caresse ou d'un ronronnement ou d'avoir quelqu'un.
Ça apporte moins de maladies parce que du coup, moins de stress.
Des ronronnements de chats pourraient me faire extrêmement de bien, me poser et poser mes nerfs surtout, physiquement me poser tout court. Et m'apporter les câlins que, en tant que célibataire, je ne peux pas avoir et qui pourtant me font du bien.
Alors Jimmy, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé souvent, mais les animaux, au-delà du fait qu'on les aime évidemment, ils peuvent nous soigner, en quelque sorte, nous faire du bien en tout cas, et notamment à notre cœur.
Oui, c'est notamment l'objet d'une campagne de la Fédération Française de Cardiologie qui s'appelait « Oh my dog ». Et ça proposait aux personnes âgées justement d'avoir un compagnon, quel qu'il soit, donc ça peut être un chat ou un chien, parce qu'on s'est rendu compte qu'après 65 ans, avoir un animal de compagnie réduit le risque de mortalité par maladie cardiovasculaire de plus de 35%.
Ah oui, quand même.
Et donc finalement, avoir un chien ou un chat, ça peut vous sauver.
Alors j'imagine que c'est plutôt le chien quand même, parce que vous dites le chien ou le chat, mais le chien, on voit bien que du coup, ça agit peut-être sur le cœur, parce que bah, tout simplement, le chien, il faut le sortir, donc ça nous fait bouger, c'est ça?
Oui, l'objet de la campagne, c'était les chiens, mais finalement, certaines personnes n'en veulent pas ou ne peuvent pas l'assumer. Mais le fait déjà d'avoir un contact avec un animal, la câlinothérapie, ça permet de sécréter de bonnes hormones, des moments de détente, des moments anxiolytiques. Et puis, si jamais vous avez un chien, bah, vous allez le sortir, donc vous allez faire de l'exercice physique,
et, oui.
Et puis vous allez rencontrer d'autres maîtres, vous allez créer du lien social, et ce lien social est très important dans la prévention de certaines maladies. Dit. Bref, c'est gagnant-gagnant.
Et c'est vrai qu'on voit souvent dans la rue les gens qui ont des chiens, bah, ils parlent entre eux, gens qui ont des chiens et ça crée, on se fait des amis entre promeneurs de chiens. Alors on a compris, avoir un chien c'est bon pour le cœur, mais ça marche pas pour les chats du coup alors.
Alors pour les chats ça marche, mais sur d'autres mécanismes. Le chat vous permettra lorsqu'il est exposé chez les enfants de réduire les risques d'allergie et les risques d'asthme notamment. Mmh. Plus l'enfant est petit exposé à un animal, moins il va développer un risque allergique supposé. Les Suédois se sont intéressés à ça et sur plus de 1000 enfants âgés de 7 à 8 ans, ils ont montré que l'incidence des maladies liées à des allergies comme l'asthme, l'eczéma, était de 43% chez les enfants exposés à un seul animal domestique contre 49% chez les enfants non exposés. Donc ils sont un peu moins allergiques. En revanche, finalement, lorsqu'il y a trois animaux qu'on expose aux enfants, et ben ce risque tombe à 24%. Bref, plus il y a d'animaux à la maison, moins on a un risque.
Il faut faire
d'allergie.
La ferme à la maison. Alors quand même, du coup, on va tous prendre minimum un chien, un chat, un poisson rouge, c'est ça ?
Alors le poisson, ça peut faire plaisir, mais ça marche pas trop.
Ah,
non, le poisson, ça marche pas parce que il faut qu'il y ait notamment des poils, des allergènes, des bactéries.
Ah,
le chat,
oui.
Le chien,
donc
ils vont dehors.
Sort,
exactement.
Voilà, c'est ça.
Et du coup, ça développe l'immunité, ça limite les risques d'allergie. Et pour le coup, bah, c'est bon pour la santé.
Et donc, si on veut limiter le risque que son enfant souffre d'allergie, bah, donc, on adopte un chien ou un chat, ça suffit.
Non, parce que malheureusement, certains enfants sont réellement allergiques. On aura beau les exposer autant de temps qu'on veut
c'est pas
à des chiens, des chats, ce n'est pas
tout.
La solution. Mmh. Et au contraire, ils vont être de plus en plus gênés. Donc, ça peut limiter notamment des prédispositions à devenir allergiques. Mais si vous devez être allergique, vous le serez avec ou sans chien.
Parce qu'il y a par exemple une hérédité, c'est ça que vous voulez dire. Quand on a des parents allergiques, on a de fortes chances de l'être quand même. Et je crois qu'aussi le fait de vivre à la campagne ou à la ville, ça joue aussi. Il me semble que les enfants nés à la campagne, il y a quelques études qui l'ont montré, sont souvent moins allergiques que les autres parce qu'ils ont été plus dans la nature, dans la terre,
oui,
etc.
Parce que exactement, nous, on ne veut pas que l'enfant se salisse. Dès qu'il touche le sol, on lui lave les mains. Dès qu'il pleut, on ne les met pas dehors. Et donc, c'est des habitudes plutôt citadines qu'on ne retrouve pas à la campagne. Et finalement, le temps où nos parents nous jetaient dehors dans la forêt quand il fait beau, quand il fait froid, eh ben, il serait bénéfique pour nos santé et on tomberait moins malade. Alors que nous, on veut vraiment les protéger. On parlait tout à l'heure de l'histoire de la tétine qui tombe par terre, qu'on va absolument mettre à la bouche. Eh ben, ce geste n'est pas nécessaire.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils. Europe 1. Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo aujourd'hui. Avec notre sexologue Catherine Blanc, on va parler des problèmes de libido que rencontrent certains couples après la naissance d'un enfant. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous les deux.
Alors aujourd'hui Catherine, on a cette question de Frédéric. Frédéric, c'est un homme, un jeune papa de 29 ans, je vous la lis. Depuis la naissance de ma fille, 18 mois aujourd'hui, ma femme n'a plus de libido, on ne fait plus beaucoup l'amour. En tout cas, que tous les deux mois. Et encore, je dois insister, elle me dit toujours « je suis fatiguée, pensez-vous que c'est la vérité ?» ou qu'elle n'a plus alors de désir pour moi. Catherine, l'inquiétude de Frédéric, c'est quelque chose de classique, on va dire. Il vient d'avoir un bébé, la sexualité du couple, elle est toujours un petit peu bouleversée à ce moment-là, non, après la naissance ?
Oui, inévitablement d'abord, parce qu'il faut quand même reconnaître l'effort que c'est de 9 mois de grossesse, d'un accouchement, d'un allaitement le cas échéant, des petites nuits, de la fabrication de prolactine qui est une hormone qui permet l'allaitement mais qui du coup est complètement anaphrodisiaque. Tout ça ne concourt pas vraiment à une reprise de la sexualité
immédiate,
olé, libérée, bien évidemment. Il y a des kilos aussi parfois, il y a un mal-être dans son corps, il y a parfois un déséquilibre hormonal avec potentiellement une déprime postpartum.
Mais donc, bon, tout ça ne dure pas forcément 18 mois. Là, il dit que la petite fille, elle a 18 mois aujourd'hui.
Voilà, donc ça commence comme ça et puis ça peut s'installer en effet. Pour plusieurs raisons. D'abord, une difficulté qui peut être une déprime qui perdure et qui est là, tapis dans l'ombre. C'est peut-être aussi parce que cet enfant est finalement la source de plaisir, la source de jouissance de cette femme et que du coup, elle n'arrive pas à retrouver le chemin de son homme et ce qu'il peut lui apporter.
Jimmy ?
Alors, 18 mois, ça semble quand même un petit peu long. Je sais que vous n'aimez pas trop donner des chiffres, mais en moyenne, un couple reprend une activité sexuelle au bout de combien de temps après une naissance ?
Alors d'abord, il ne faut pas qu'il la reprenne avant au minimum un mois, 40 jours à peu près, pour que l'utérus ait repris tranquillement sa position, pour que le corps se soit remis...
physiquement.
Se soit remis physiquement, ça c'est important parce que les hommes le sachent parce qu'il y a certains qui sont assez...
On laisse tranquille les femmes au moins un mois.
Voilà,
peut-être parce qu'aussi on ne les informe pas, peut-être que dans l'ignorance on devrait leur dire, dans les cours de préparation de la naissance, attention les rapports c'est minimum un mois pour qu'ils aient un peu du jote parfois.
Bien sûr, c'est vrai, c'est
voilà,
vrai.
C'est important. Et ça, c'est pas parce qu'une femme est fragile, hein, c'est simplement parce que son utérus est encore lourd, parce qu'elle va avoir, c'est important aussi au niveau de l'étanchéité du périnée, pour pouvoir refaire travailler tout ça pour que son corps se remette tout à fait en fonction, en œuvre, et puis qu'elle se le réapproprie et qu'elle ressente aussi des choses parce qu'il s'est distendu, enfin au niveau du périnée en tout cas, il faut qu'elle puisse se réapproprier sa tonicité pour pouvoir participer d'une sexualité. Ça n'aurait aucun intérêt qu'une sexualité ne soit pas un échange de dynamisme de part et d'autre. Hein. Donc c'est pour cette raison qu'on attend tranquillement.
Donc les hommes attendent un petit peu, doivent être un peu patients, au moins un mois, vous l'avez dit, mais si ça leur convient pas, en tout cas que ça dure trop longtemps, est-ce qu'il faut qu'ils essayent d'en parler avec leur femme Ou alors peut-être, puisque là, la femme de Frédéric, elle dit « je suis fatiguée apparemment tout le temps », est-ce que peut-être la solution, c'est d'essayer de la soulager un peu avec le bébé, qu'elle soit moins fatiguée, comme ça, elle n'aura pas cette excuse au moins.
Bah, ça permettra en tout cas d'enlever l'excuse, parce que bah, évidemment qu'un bébé, c'est une lourde tâche, c'est pas parce qu'on a le grand souhait d'un enfant que tous les jours sont tous les jours roses, c'est assez compliqué, et tous les jours ne sont pas que de l'émerveillement, il y a des moments de face-à-face avec soi-même. Je crois que quand même, il y a de sujets importants qui peuvent être derrière tout ça, c'est-à-dire d'une part, potentiellement une déprime qui ne s'est pas exprimée et une maman qui se replie sur son bébé. Et puis l'autre chose, c'est finalement une relation qui s'est inscrite dans le but de faire des bébés. Et dès lors que la sexualité n'a pas lieu d'être à but de procréation, elle n'a pas lieu d'être pour elle. Ce qui pose évidemment la question de sa capacité à l'érotisme de façon générale, outre dans la direction de cet homme-là.
Jimmy ?
Et au bout de combien de temps il faut commencer à s'inquiéter, se dire que finalement ça commence à traîner un petit peu, même
si j'aime pas beaucoup. 18 mois, c'est long quand même.
18 mois, ça semble un peu excessif, non ? Il aurait fallu peut-être, je sais pas, au bout de 6 mois, 1 an, commencer à en parler ?
Oui, en parler, être tendre aussi. On n'est pas obligé d'aborder la sexualité par la sexualité. On peut l'aborder par des câlins, des douceurs, puisqu'elle est
l'amener
elle-même...
au restaurant, lui acheter des cadeaux.
Oui, des actes d'amour oui, quotidien.
Et puis même physique, je pense aussi dans le corps à corps. Je crois que c'est important, puisqu'elle est dans le soin du corps d'un nourrisson. C'est important qu'elle se sente soignée elle aussi dans son corps et amenée petit à petit dans sa féminité, valorisée dans ce corps qu'elle récupère. Parce que c'est pas pour rien aussi que nombre de femmes n'arrivent pas à récupérer leur corps. C'est une façon de mettre à distance leur mari et une façon de témoigner de leur dégoût qu'elles ont d'elles-mêmes. Et du coup, on peut pas érotiser un corps qu'on n'accueille pas.
Lui dit, elle a peut-être plus de désir pour moi. Ça, c'est vrai que c'est une question que souvent les hommes se posent. Ils ont l'impression, ça y est, elle aime plus que le bébé, moi même plus. Mais c'est pas ça.
Mais
ça,
en fait,
souvent.
C'est parce que l'homme évidemment sent très bien que ce bébé est un véritable rival, parce que ce bébé a des besoins qui sont entendus par la mère inévitablement, à moins d'être vraiment une très mauvaise mère. Mais sinon, ils sont entendus. Et donc, du coup, l'homme est assez enclin d'imaginer que ses propres besoins doivent être également entendus au même titre que ceux de son enfant. Donc, il faut pouvoir évidemment d'abord rester à son statut d'homme, rester à son statut d'adulte et pas revendiquer sur la même ligne que le bébé, parce que sinon on se retrouve avec une rivalité que la femme ne comprend pas et elle ne veut pas d'un deuxième enfant et elle n'aurait pas de désir pour un deuxième enfant.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h.